nous confondre même, parce qu'ils refusaient de s'appeler des sages. Seul Dieu était sage. Ils ne revendiquaient simplement que le titre d'amant de la sagesse, de chercheur de la sagesse, autrement dit de philosophe, au sens propre du terme. Et toute leur vie, ça consistait en cette quête. Toute leur vie était informée, si je puis dire, par cette quête. L'ascèse, eh bien, elle affinait la maîtrise de leur sens. Le célibat même, parfois, qui leur permettait d'éviter de se livrer aux passions, pour garder un esprit parfaitement lucide et clair. Ce n'est vraiment pas sans grandeur. On peut se demander qu'est-ce que vont apporter les sages de l'Ancien Testament dont la première lecture aujourd'hui se fait l'écho. Est-ce qu'ils ont plus de grandeur morale, de droiture? Non. De ce point de vue-là, il n'y a rien de mieux. C'est parfois mieux même chez les Grecs ou chez les Égyptiens. Mais il y a pourtant une espèce de révolution absolue avec ces sages de l'Ancien Testament. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette première lecture? Ce n'est plus l'homme qui poursuit la sagesse, c'est la sagesse qui cherche l'homme. Elle devance leur désir, elle se montre la première. C'est magnifique. Elle va et vient pour rechercher ceux qui en sont dignes. Et puis, autre phrase magnifique, au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. C'est vraiment un texte admirable. Et sans rien disqualifier de la sagesse antique, eh bien, il va dire ce texte toute la nouveauté du Dieu de Jésus-Christ qui vient nous chercher. Puis peut-être autre chose qui nous frappe dans ce texte, c'est l'impression de facilité, de grâce au sens de facilité d'être. La sagesse, eh bien, elle se laisse contempler, elle ne met pas 36 obstacles avant qu'on la regarde. Celui qui la cherche ne se fatigue pas. Alors, l'ascèse du sage, ses efforts, tout ça, c'est comme complètement estompé. Ça passe au second plan. Et je me suis dit, peut-être que ce texte nous oriente vers une nouvelle conception de la quête de Dieu. Si finalement, c'était plus facile que ce qui n'y paraît. Et si l'héroïsme, il n'était pas forcément là où on l'attendait. Je crois qu'il faut bien situer l'héroïsme dans notre vie chrétienne. Il existe, vous savez qu'on parle d'héroïcité, des vertus, quand il s'agit de reconnaître la sainteté de quelqu'un. Et puis, dans les vieux martyrologes, il y avait parfois aussi cette tendance à souligner à gros traits l'héroïsme des saints. Par exemple, leurs exploits ascétiques, hein, ils refusaient le sein de leur maman tous les vendredis, hein, comme une espèce d'ascèse absolue, ou bien ils résistaient avec une volonté farouche aux assauts du mal, alors ce qui est tout à fait remarquable. Mais ça devait nous faire pousser des hauts et des has d'admiration à toutes les lignes. C'était, si je puis dire, un peu la chance d'un christianisme héroïque. Le désir des choses difficiles, eh bien, ça embrase notre cœur, hein, c'est vrai. Peut-être que vous le savez aussi, mais dans certains séminaires, hein, les séminaires des missions, il y avait dans les réfectoires ou les chapelles les fresques de tous les supplices à quoi s'attendaient les futurs séminaristes quand ils auraient été ordonnés et envoyés en mission pour qu'ils soient sûrs d'être bien préparés et que ce spectacle de la difficulté, bien au contraire de les décourager, au contraire les stimule. Et le christianisme est ce chemin d'héroïsme. C'est absolument légitime, mais c'est absolument insuffisant aussi. Car l'essentiel n'est pas là. Si le christianisme était plus facile qu'il n'y paraît. Et si j'ose dire, s'il fallait courir le risque de la facilité. Le Christ ne dit-il pas « Mon joug est facile et mon fardeau léger » Et notre fondateur, reprenant François de Sales, disait « Quand on aime, rien ne paraît dur. » Alors est-ce que les amateurs d'héroïsme en sont pour leurs frais? Parfois, c'est vrai. On voit bien ce que ça produit quand l'irascible, c'est-à-dire ce désir en nous d'un bien difficile, n'est pas comblé. Vous vous souvenez peut-être de Naaman le Syrien. Il était lépreux. Et voilà que quelqu'un, une petite servante, va lui dire « Dans mon pays, il y a quelqu'un qui peut te guérir. » Il va voir le prophète et le prophète lui fait dire « Va te baigner dans le Jourdain. » Et il s'énerve. Il s'énerve, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'il n'agite pas la main sur moi? Pourquoi est-ce qu'il ne me demande pas des choses beaucoup plus difficiles, de me baigner dans un torrent impétueux ou je ne sais quoi ?»« Non, va te baigner dans le Jourdain. C'est tout. » Il doit se réconcilier avec cette facilité. Alors il s'énerve, il croit qu'on se moque de lui, et puis finalement il y consent. Quel est l'enjeu de tout cela? C'est que débarrassés de la difficulté, nous sommes reconduits à notre propre cœur, au principe de notre désir. Un peu comme si nous étions comme Adam au paradis, que dans cette harmonie générale, Dieu nous posait la question « Me fais-tu confiance? Veux-tu vivre avec moi ?» Voyez, c'est tout le sens de la parabole des vierges sages et des vierges folles. « Toutes sont vierges, dit le texte grec. » C'est-à-dire toutes vivent selon un ordre moral qui, Dieu sait, peut coûter. Bien plus, elles vivent selon une innocence. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas ça d'abord qui m'intéresse. Certaines ont prévu de l'huile et d'autres non. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire tout simplement, certaines aiment l'époux, et parce qu'elles aiment, elles prévoient. Cette huile, eh bien, c'est le signe de leur désir. Désir que l'époux arrive jusqu'à la salle des noces. Il a besoin d'être éclairé, ce pauvre époux, si je puis dire. Il est dans la nuit. Il a besoin de ses lampes. Et celles qu'il aime, eh bien, veulent qu'il arrive jusqu'à cette salle des noces. Elles ont en leur cœur ce désir si profond que nous avons chanté de manière si admirable dans ce psaume qui évoque le désir de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voilà. Ces jeunes femmes aiment et du coup elles se souviennent de l'époux car c'est ça qui rend possible l'attente. Quand on aime, eh bien, l'image de la réalité qu'on aime s'imprime dans notre cœur et nous permet de traverser l'attente, l'impression de la chose aimée, dit saint Thomas. Et les autres, qui sont folles, eh bien, elles n'ont rien prévu. C'est ça leur folie. Vous vous souvenez peut-être qu'est-ce que c'est qu'un fou dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Le fou, c'est celui qui dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Eh bien, au cœur de ces vierges folles, l'époux est déjà mort. Il ne vit plus en leur cœur, alors, eh bien, elles n'attendent pas vraiment, elles font comme si. Elles font la comédie humaine, la comédie de la religion. Elles ont perdu la vigilance du cœur. Elles ont perdu la foi pour dire les choses. Vous vous souvenez peut-être, il y avait un écrivain catholique qui écrivait dans un grand quotidien national et qui faisait ses petits billets, et il y en avait un où il évoquait le bureau des fois perdu. Que de même qu'il y a des objets perdus, il dit, ça serait peut-être pas mal, à force que je m'entende dire « j'ai perdu la foi », pourrait peut-être créer un bureau des fois perdu. Et alors on irait devant ce bureau en disant « Voilà monsieur, j'ai perdu la foi. Quand est-ce que vous l'avez utilisé pour la dernière fois ?» lui demanderait alors le préposé. Et c'est tout l'enjeu. Quand est-ce que vous l'avez utilisé pour la dernière fois ? Était-elle encore vivante ? Voilà. Chers frères et sœurs, je crois que dans tout cela, il y a vraiment un enjeu terrible et un enjeu à chaque étape de notre vie. C'est de rencontrer Dieu sans excuse, le cœur à nu. Pour l'entendre nous dire, veux-tu le rencontrer dans sa douceur et son infini respect ? Oui, Dieu ne veut pas faire vibrer en nous les cordes de l'affectif ou les cordes de l'héroïsme, du désir d'héroïsme, pour que nous nous attachions à lui. Ce même auteur disait encore, « Ce n'est pas la toute-puissance de Dieu qui nous menace, mais sa douceur. » Dieu ne nous dit pas, « As-tu besoin de moi ? Veux-tu que je comble ton cœur ?» Ou veux-tu me servir ? Mais il dit simplement, veux-tu être mon ami ? Et la réponse que nous donnerons donnera tout son poids à notre existence, toute la qualité à nos vies. Nous basculerons ou non dans son camp, si je puis dire, selon cette réponse à donner à chaque moment de notre vie. Alors oui, si nous le suivons, si nous l'acceptons, c'est vraiment le martyr du cœur. Mais martyr, si vous voulez, non pas à prendre au sens d'un cœur transpercé de flèches, mais au sens de témoignage. Le martyr d'un cœur qui a fait alliance avec son Dieu. Pour terminer, j'aime beaucoup le témoignage de Polycarpe. C'était un martyr des premiers siècles qui avait connu Saint Jean. Et au moment de son procès, ce vieux Polycarpe, on lui demande « Vas-tu enfin renier ton Dieu qui n'existe pas ?» Et lui dit tout simplement « Comment pourrais-je faire du mal à celui qui m'a fait du bien depuis que je suis tout enfant ?» Il n'y a pas de prétention d'héroïsme là-dedans. Et pourtant, il sera ce grand héros, ce grand martyr que nous connaissons. La Vierge Marie a compris tout cela ô combien. Extérieurement, peut-être rien de difficile dans sa vie, mais intérieurement, un cœur uni à son Fils, dans la gloire et dans la croix, un cœur, en définitive, infiniment heureux de se savoir lié pour l'éternité à celui qui est tout pour elle.